Copic FM.
Bonsoir, vous êtes dans le magazine de Tropic FM. Résumer en quelques lignes la carrière d'Olivier Mélano, c'est comme défier le bûcheron ibérique Raphaël Nadal sur terre battue. On a ses chances au départ, mais on renonce à la tâche au bout de 30 secondes. Violoniste, guitariste, auteur, compositeur, interprète, créateur et installateur musical au sens large, pilier de concerts en tout genre, cet homme continue de traverser la scène française avec un abattage et une frénésie qui ferait passer le monarque élyséen à talonnettes pour un roi fainéant. Peut-être a-t-il recours au fameux germe de blé popularisé par l'impayable Jeannie Longo pour mener à bien un flot d'activités telles que tous ceux qui ont vu un jour en concert Miossec, Dominica, Françoise Breu, Yann Tiersen ou Laetitia Sheriff entre autres, ont fini par reconnaître et identifier cette présence à la fois discrète et efficace de l'incontournable Mélano. Une formation de musicologie du côté de Rennes, qu'il conduira à la guitare ou au violon, sans que la police y soit pour grand-chose. Dominica saura le remarquer, lui qui l'emmènera sur la tournée de l'album Remué, avant de le recruter pour l'enregistrement de Augurie et de l'Horizon. Fondateur avec d'autres musiciens et artistes du label Rose C'est la vie, Olivier Mélano crée en 1998 un projet baptisé L'île électrique, vaste auberge espagnole où musique classique, rock, pop, danse et expérimentations diverses cohabitent dans un mélange des genres cher à notre invité. De multiples artistes viendront y respirer parfum de rencontres musicales impromptues et inattendues, à l'image d'un Yann Tiersen par exemple, qui sait lui aussi redonner un sens noble au mot collaboration, vocable quelque peu terni sous la botte germanique, mais il y a prescription. Hercule Mélano a encore trouvé le temps de fonder le groupe Mobile avec Gaël Desbois, qu'il nous soit d'ailleurs permis ici de préférer Mobile à Téléphone, un jugement sans appel. Homme proté du paysage musical national, Olivier Mélano est aussi inspiré par le cinéma et pas n'importe lequel. L'Aurore de Murnau, Buffet froid de Bertrand Blier et Duel de Spielberg lui ont inspiré les musiques de ciné-concert où, seul avec son instrument, il établit une sorte de chaînon manquant entre L'homme à la caméra, film culte de Dziga Vertov, et L'homme guitare que nous avons appris à connaître et respecter au fil de ces années bien remplies. Les spectateurs présents au kiosque des Quinconces hier soir ont dû être comme nous impressionnés par l'inventivité et touchés par la modestie de l'homme tout en noir qui s'est éclipsé discrètement son devoir rempli. Olivier Mélano, bonsoir.
Bonsoir.
À propos de ce ciné-concert, des avis qui te sont revenus, un accueil, comment ça s'est passé?
J'ai senti un chouette retour des gens, ce que je disais, toute génération confondue, c'était un petit peu un challenge, parce que d'une part c'est des images d'archives que les gens peuvent reconnaître,
s'approprier, ou,
voilà. Et donc le but c'était effectivement d'être quasiment transparent pour ne pas interférer ou ne pas donner trop d'émotions, trop de pathos, mais un petit peu quand même. Donc voilà, c'était vraiment un truc un peu d'équilibriste, cette chose-là. Et comme c'était en improvisation, du coup, voilà, il y a un truc qui est pas facilement explicable.
D'accord.
Ça, voilà. Bon, c'est de l'empathie, hein, et avec le film, et avec les gens
avec
qui sont là.
Ouais. Je pense qu'on reparlera un petit peu plus longuement des ciné-concerts en fin d'émission. Évoquant tes jeunes années, si je puis dire, là, tu as vécu dans une ville comme Rennes, qui est réputée pour son ébullition musicale. Je pense que ça a dû influer sur ton approche de ta carrière, sur le goût des rencontres.
Probablement, oui. Quand je suis venu m'installer à Rennes, au début, c'était vraiment dans l'idée précise de faire de la musique, de monter des groupes. J'habitais pas très loin de Rennes, dans la campagne, et quand je suis arrivé à Rennes pour mes études de musicologie, ouais, voilà, j'ai commencé à monter des groupes assez facilement. Là-bas, il y a quand même quelque chose d'assez bienveillant des musiciens les uns envers les autres. Tout le monde travaille, voilà, il n'y a pas forcément de compétition.
Une concurrence.
Voilà, c'est plutôt assez chouette de croiser. Il y a tous les styles de musique qui cohabitent de façon paisible,
sympathique,
ouais,
et paisible.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a une rencontre déterminante à l'époque, Dominique Sonic ou quelqu'un d'autre?
C'était un peu plein de trucs, ouais. J'ai commencé un peu avec les gens de Complot Bronzevik, c'est un groupe que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Donc c'était marrant de me retrouver avec eux sur scène. C'est avec eux qu'on a monté le label Rose C'est la vie. J'ai commencé à travailler avec Bruno Green, ouais. Dominique Sonic, que j'écoutais aussi quand j'étais plus jeune. Et puis c'était aussi assez marrant de se retrouver.
Sorte de rêve de gosse.
Un petit peu, ouais. C'était un peu, voilà. Les gens que j'écoutais, je jouais avec eux deux ans plus tard, donc c'était vraiment rigolo, ouais. Et voilà, donc c'est comme ça. Et puis parallèlement, j'ai essayé de monter un peu mes projets perso, et voilà, ça a été un peu tout jusqu'à maintenant, un peu toujours comme ça, d'avoir accompagné des gens et puis mener mes projets personnels.
Toujours sur un rythme frénétique dès le plus jeune âge.
Ben, je sais pas, je me rends pas bien compte, vu que je fais que ça et que je peux pas me satisfaire d'une seule forme, ça prend cette forme, on peut dire frénétique peut-être.
J'ai lu sur internet le mot dispersiateur.
Ah, c'est bien possible. Mais en fait, bizarrement, moi j'ai l'impression que plus je fais de choses différentes, moins je me disperse, plus je précise le propos. Donc c'est en confrontant un peu mon monde musical à plein de formes que j'ai l'impression de savoir de plus en plus ce que
de
je veux faire.
Toi-même.
Voilà, exactement. Donc c'est presque plus le contraire d'une dispersion, même si ça peut se voir comme ça de l'extérieur. Mais...
Et côté instrument, ça a toujours été le violon et la guitare, ou est-ce que c'est tes études de musicologie qui ont un peu déterminé ça?
C'était au début violon-guitare, après j'ai complètement arrêté le violon, parce que j'avais aucune affinité avec cet instrument, et dans le rock, je vois pas trop l'intérêt de cet instrument. Et puis, donc, beaucoup la guitare, de plus en plus, et puis finalement, presque de moins en moins maintenant la guitare, mais plus la composition. J'ai jamais eu un rapport vraiment très très fort avec l'instrument, sinon en improvisation, enfin j'aime beaucoup la guitare, mais pour moi la musique ça dépasse la pratique instrumentale, et c'est plus l'écriture, la composition, et voilà.
Comment est-ce qu'on en arrive à un projet un peu dingue quand même, qui est celui de fonder un label, avec d'autres, d'ailleurs d'autres gens que des musiciens, des musiciens,
Je sais pas, à l'époque c'était l'envie de sortir un peu nos disques, comme personne forcément voulait les sortir, ce qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, hein. Sauf que maintenant on a moins l'énergie de monter des labels, mais c'était une aventure très collective avec pas mal de gens, on organisait des soirées assez folles, on avait retapissé l'Ubu, c'est une salle arène, tout en jaune, il y avait un côté très donc Rosset la vie, c'était un peu la muse surréaliste créée par Duchamp, et il y avait vraiment ce côté qui reprenait un peu un esprit surréaliste de groupe comme ça, de
communauté,
voilà, et ce qui se perd un peu maintenant, ce qui est vraiment très dommage, je trouve qu'il y a maintenant très très
très individualiste,
voilà, c'est ça, et c'est un peu triste, je trouve, les gens je peux comprendre, mais c'est un peu dommage parce que les grands mouvements artistiques ont souvent été des mouvements collectifs. Et voilà, il y a peut-être une perte de quelque chose.
Ouais, et puis l'utopie, ça fait pas de mal de temps en temps non plus.
Complètement.
Je crois que t'as décidé un peu, donc tu nous l'as dit, de laisser tomber l'accompagnement des autres artistes sur scène. Est-ce que pendant toutes ces années où on t'a vu maintes et maintes fois en concert, tu as pu expérimenter des choses qui te servent dans ton travail actuel?
Ouais, bien sûr. Et puis travailler avec des gens comme Dominica, par exemple, c'est une grande chance, et humainement et artistiquement. C'est des gens qui me faisaient une confiance quasi aveugle, donc je pouvais faire exactement ce que je voulais avec eux. C'est des gens, quand ils choisissent de travailler avec quelqu'un, ils leur laissent vraiment toute latitude. Voilà, il n'y a aucune direction. Donc alors après, il faut avoir l'intelligence de servir au mieux, ouais, la personne avec qui on travaille, en servant son énergie. Voilà, on est entièrement à son service, mais avec notre patte, quoi.
Et tu l'as rejoint à l'époque de Remuer, qui a été un échec commercial, qui l'a assez mal vécu. Est-ce que toi aussi, en tant que musicien, tu l'as ressenti, cet échec?
Alors, un échec commercial, parce que probablement pour moi c'est sûrement son meilleur album.
Oui, pour beaucoup de gens qui aiment Dominica, je crois que c'est un album
qui prouve bien que voilà, ce qui marche est jamais ce qui est le mieux, enfin très rarement. Et moi en fait au tout début, j'étais pas extrêmement fan de Dominique sur les premiers albums. J'ai compris après avec le recul, mais à l'époque je comprenais pas qu'il y a quelque chose qui m'échappait chez Dominique.
Le côté hyper minimaliste.
Peut-être un côté peut-être un petit peu précieux. Qui était nouveau, mais voilà, j'étais pas prêt pour ça.
Ouais, qui lui colle toujours après à la peau, quoi.
Mais bon, il y a une force qui s'est inscrite en lui, mais ce qui n'empêche que les textes étaient magnifiquement bien écrits, etc. Et quand j'ai entendu Remuer pour la première fois, vraiment là, je suis tombé subjugué vraiment par la force de ce disque. Et donc, il s'est avéré que c'est juste à ce moment-là qu'il m'a proposé de partir avec lui, donc ça tombait très très bien. Et puis après, les albums qu'on suivit aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Oui, je pense qu'il était satisfait de ton travail, puisque tu l'as retrouvé pour Augury et puis L'Horizon. Oui,
tout à fait. Et puis on avait fait, la tournée Remuée, et puis donc cet album live qui s'appelle Force Motrice, voilà, qui est sorti après, qui rassemblait un petit peu, du coup, toutes ces années ensemble. Mais voilà, c'était une grande chance. Et donc, on apprend beaucoup de ces gens-là dans leur façon d'essayer d'être entièrement authentique, de jamais se plier à aucune règle. Oui. Ce que fait Dominique très bien, c'est qu'à chaque fois, il essaie de casser un peu le moule de ce qu'il a fait précédemment. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il restera vraiment, parce que voilà, il fait pas ce qu'on attend de lui, quoi. Et c'est ce qui fait toute sa force. Ouais. Mm.
On parlait tout à l'heure de mobile. C'est ton groupe, c'est un des groupes.
Tout à fait. Oui. Ça a été un de mes groupes central pendant assez longtemps, en fait, avec Gaël Desbois, donc mon alter ego dans mobile. On a commencé la musique ensemble en 1987, nos tout premiers groupes de lycée. Donc c'était vraiment ensemble. Après, on a fait un groupe qui s'appelait Vénus de Ride, qui était sur le label Rosé la Vie. Il était avec moi, donc on s'est suivis tout ce temps-là. Et mobile, ça a résulté un peu de toutes ces années. Donc on a fait nos trois albums, dont on est vraiment content, fier. Et puis là, on est en une sorte de stand-by, parce que moi, j'ai l'impression d'être aussi au bout de quelque chose avec ça, et attendre de retrouver vraiment l'urgence d'écrire. Pas enfiler les albums comme ça. Effectivement, il y a eu quasiment aucun, très très peu de retour, ni des médias, ni, enfin, on a eu quelques trucs, des pages dans les Inrocks, tout ça, mais ça ne fait rien. On n'a quasiment pas de concert, donc c'est très très dur au bout d'un moment de mettre beaucoup de choses dans un projet et d'avoir aussi peu de retour. Ça use un petit peu. Donc voilà, comme aussi Gaël et moi, on fait d'autres choses. On a mis un peu le projet en sommeil, voilà, avec ces trois albums qui existent toujours, qui sont.
Ah, parce qu'on parle souvent de tes collaborations, mais tu existes en tant que Olivier Milano quand même.
Ben c'est ce que j'essaye en tout cas, de plus en plus.
De plus en plus. Mobile, Christian.
Eh ben on pourrait peut-être écouter un extrait du troisième album qui s'appelait Fondre sur les hyènes, et c'est le morceau d'ouverture qui s'appelle Arroser la colère, avec les textes d'Olivier et la musique d'Olivier et Gaël. Un morceau.
Et tu chantes?
Tout à fait.
Alors qu'au début, non?
Non, je me suis mis à chanter dans mobile, en fait, parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Et comme j'écrivais les textes, je me suis dit, bon, allez, je vais les assumer en les chantant.
Ça te manque la chanson?
Pas du tout.
Thank you.
La beauté des grincements chez Mobile, alias Olivier Mélano et Gaël Desbois. La colère est une graine, que ces mots soient de l'eau, de l'engrais pour qu'elle germe. Ça prouve que chez Olivier Mélano, il n'y a pas que la musique qui compte.
Ah, bah non, non. Quitte à écrire des textes, autant qu'ils disent quelque chose.
Donc une aventure peut-être en fin de cycle, Mobile.
En sommeil. En sommeil. Pour l'instant, ouais. Ouais. On verra.
D'accord. Mais continuer à être en colère, ça porte ses fruits.
Je ne sais pas si ça porte ses fruits, en tout cas, c'est un état dans lequel on ne peut qu'être.
Indispensable.
Quand tu dis que tu aimes écrire des chansons qui ont du sens, qu'est-ce que tu entends par là ?
C'est-à-dire que j'entends assez peu de sens dans ce que j'entends en général, donc j'essaye d'en mettre un peu dans ce que je fais. Ouais.